Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le livre « Contes et légendes du Languedoc », un texte traduit de l'occitan par Marcel Barral et Charles Camproux, nous avons lu 8 des contes. Nous continuons maintenant avec un nouveau qui s'appelle « Pataté de Sabran ». Nous l'avons commencé la dernière fois et nous allons le continuer aujourd'hui. Écoutez plutôt. Le maître est parti. Pataté resta tout seul à la ferme. Il faut vous dire, cher auditeur, que notre ami Pataté est un peu difficile à vivre. Sa mère n'a pas pu le supporter. Son maître le supporte difficilement. Et voilà que son maître doit s'absenter. Toutes ces aventures avaient creusé son estomac. Pataté avait une faim de loup. Alors, il fit rôtir une belle tranche de pain arrosée de bonne graisse. Toutes ces aventures lui avaient donné grand soif. Alors, il alla à la cave tirer un pichet de vin à la barrique. Il laissa sur la table la belle tranche de pain rôti arrosée de bonne graisse. Mais les poules cadascantes entrèrent et cadascant emportèrent la belle tranche de pain rôti arrosée de bonne graisse. De la cave, Pataté aperçut les poules cadascantes qui cadascant lui mangeaient son pain rôti. Alors, arrachant d'un coup le robinet de la barrique, il le jeta à la tête du coq. Quick ! Et il le tua d'un coup. À ce moment, il entendit quelqu'un qui, du fond de la cave, lui disait « Hé, Pataté, tu es un niais, tu es un niais !» Il alla y voir. Mais c'était l'oie, une oie. « Ah, Pataté, t'es un niais !» Il prit l'oie par le cou, le pauvre Pataté, mais qui n'eut pas comme lui été excité. Il prit l'oie par le cou et vlan, il la lança contre le mur et la tua d'un coup. Or, c'était une oie couveuse et il y avait beaucoup d'œufs dans son nid. Le brave Pataté sentit son bon gros cœur sauter dans sa poitrine. Sans hésiter, il se coucha sur les œufs pour les réchauffer. Et bien sûr, il les cassa tous. Plein de jaunes d'œufs, Pataté ne sut comment se nettoyer. Bassé, le brave chien aux longues oreilles pendantes était là, qui regardait Pataté d'un œil rond et compatissant. Il se leva lentement du coin de soleil où son museau reposait sur ses deux pattes courtes et tout en remuant avec condescendance sa longue queue blonde, il s'approcha placidement de Pataté. Lentement, méthodiquement, de sa langue rose, il commença à lécher le jaune d'œuf. Il lécha, relécha lentement, consciencieusement de sa langue rose, jusqu'à ce qu'il ne restât plus une seule trace de jaune d'œuf sur les larges fesses du brave Pataté. Cela dura longtemps, si longtemps que lorsque l'opération fut terminée, il ne restait plus dans la barrique qu'un peu de lit. Tout au fond, tout s'était vidé. Pataté eut encore le cœur plus gros que jamais. Et pendant ce temps, Bassé le contemplait d'un œil pitoyable, puis il cligna des yeux comme on hausse des épaules, et lentement, sur ses quatre petites pattes courtes, Bassé regagna son coin de soleil, fit 2 tours sur lui-même, puis se coucha, allongea ses pattes et y posa avec précaution son museau. Ceci fait, il leva lentement le noir de ses yeux par-dessus son nez et il regarda Pataté d'un air compatissant et protecteur. Quand le maître revint, il se rendit compte de la fête et il donna son congé à notre Pataté. « Mon pauvre Pataté, je ne peux plus te garder. Va-t'en au diable si tu veux. Mais tu as perdu la raison. Et Pataté s'en alla tristement. Il marchait à travers champs, sans rien voir, sans rien entendre. Consterné, il répétait d'un pas à l'autre « J'ai perdu ma raison, j'ai perdu ma raison. Comment la retrouver, mon Dieu? Mais comment la retrouver ?» Et Pataté marchait à travers champs à la recherche de sa raison. Il ne mangeait plus, il ne buvait plus. Mais il répétait sans arrêt « J'ai perdu ma raison, j'ai perdu ma raison. Comment la retrouver ?» Il regardait à droite, il regardait à gauche, mais de raison il n'en voyait point. Il soulevait les cailloux, il déplaçait les feuilles mortes, il se couchait pour coller son oreille au trou de grillon. « Ma raison, es-tu là ?» Mais sa raison ne répondait pas. Et il n'y avait sous les cailloux que de la terre humide, et rien sous les feuilles mortes que de l'herbe mouillée. Enfin, il rencontra un bûcheron qui, le voyant tout triste et inquiet, lui demanda « Que cherches-tu, mon grand? Tu as perdu quelque chose ?»« Oui, » répéta Pataté, « j'ai perdu ma raison. C'est mon maître qui l'a dit. Oh, oh, si ce n'est que ça, nous la trouverons bien. »« Vraiment? Vous pourrez m'en donner des nouvelles ?»« Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Tu vois, il faut que je coupe tous les gros arbres de cette forêt. Mais la prochaine fois, je te dirai où elle est. » Pataté ne voulut point quitter le bûcheron qu'il ne lui eût révélé où se trouvait sa raison. Il irait vite la chercher, même si c'était au bout du monde, car il était trop malheureux sans sa raison. Et son maître ne le reprendrait pas s'il ne retrouvait d'abord sa raison. Pataté s'assit sur une racine d'arbre et regarda le bûcheron abattre les grands arbres. Si bien que le bûcheron, énervé de voir Pataté, qui s'entêtait à demeurer là et à regarder de ses deux yeux de veau, eut une drôle d'idée. Il enfonça sa main entre son pantalon et son ventre et alla chercher dans un repli de sa ceinture de flanelle une petite puce, toute ronde et toute noire. Après quoi, il l'enferma dans une boîte et dit à Pataté, « Tiens, voilà ta raison, et maintenant laisse-moi en paix. » Pataté, tout heureux, n'en écouta pas davantage. Il prit la petite boîte et partit dans les bois. Là, dans une clairière, il s'assit sur des fagots secs. Curieux, il voulut voir comment était faite sa raison. Pas plus tôt le couvercle de la boîte enlevé, la puce d'un saut s'échappa. Le pauvre Pataté ne put retenir toutes ses larmes. Il eut beau chercher autour de lui, remuer tous les fagots, creuser la terre tout autour, sa raison, une seconde fois, était bien perdue. Vers le soir, un chasseur passa et lui demanda ce qu'il cherchait avec tant de soin et d'ardeur. « Ma raison, monsieur le chasseur, j'ai perdu ma raison qui était dans cette petite boîte. Et mon maître ne me reprendra pas si je ne retrouve pas ma raison. » Le chasseur ne sut pas ce que c'était la raison que cherchait Pataté. Il eut peur de perdre beaucoup de temps à rechercher une chose qu'il ne connaissait pas. Il s'éloigna donc sans dire au revoir à Pataté. La nuit approchait. Pataté, la mort dans l'âme, abandonna ses recherches. Il ne retrouverait plus jamais sa raison. Alors, Pataté songea à la veuve, sa mère, qu'il n'avait plus revue depuis bien des années et à qui il avait promis de rapporter un jour beaucoup d'argent. Mais il avait perdu sa raison et il ne se souvenait même plus où habitait sa mère. Et Pataté, seul dans la forêt, pleura, pleura, pleura toutes les larmes qui lui restaient, et bien qu'il fût devenu jeune homme. La nuit tombée, et Pataté était perdu, bien perdu. Et voici que tout à coup, une voix joyeuse se fit entendre. « Patate, patate, tu cherches ta raison. Me voilà, c'est moi. On m'a coupé les ailes et je suis fatiguée. Prends-moi et je t'indiquerai le chemin. » Patate vit alors sur un tas de branches sèches une pie noire et blanche qui ne pouvait pas voler. Il la prit dans ses mains, la réchauffa, puis la pie sauta sur son épaule. « Vite, prends par là, suis le sentier, sors du bois. Là-bas, cette lumière, c'est la ferme de ton cousin. Allons-y, c'est là que j'habite. Ton cousin te recevra et tu verras, il est intelligent, lui. » Patate, tout heureux, car il commençait à avoir peur dans la nuit noire, ramena la pie chez son cousin. Autant Patate était simplé, autant son cousin était intelligent. Le cousin de Patate habitait à la campagne. Mais il était artisan à la ville voisine où il pouvait exercer son intelligence. Il fut tout à fait content de recevoir son innocent cousin qui lui garderait la maison pendant qu'il serait à la ville. Patate nettoierait, soignerait les bêtes, travaillerait le jardin. Et cela ne lui coûterait au cousin que quelques pommes de terre et des retaillons de gros lard. Patate était bien content, car il croyait avoir retrouvé sa raison. Et Patate n'était jamais si heureux que lorsqu'il pouvait rendre service en travaillant. Il savait que c'était comme ça qu'un jour, il pourrait retrouver sa mère et lui rapporter beaucoup d'argent. Un matin, le cousin dit à Patate comme d'habitude, « Je m'en vais. Surveille bien la maison. » Resté seul, Patate s'aperçut que depuis qu'il travaillait chez son cousin, il avait fait tout le travail qu'il y avait à faire. Tout était propre. Il avait réparé les serrures, bouché les trous des murs, repeint les portes et les fenêtres. Le jardin était net, pas une herbe. Et comme il venait de pleuvoir, il n'était pas nécessaire d'arroser. Patate ne sut alors que faire et il s'ennuya. Dehors, le vent soufflait avec violence. Patate vit qu'il couchait le champ de blé qui se trouvait presque mûr, bien haut et droit sur les tiges. « Ah !» pensa-t-il, « tu veux t'en aller toi aussi ? Attends, blé, beau blé, mais je vais t'aider !» Et prenant une faux, il coupa tout le blé que le vent emporta dans la forêt. Le soir, quand le cousin fut rentré, il lui demanda « Alors, Patate, tout s'est bien passé ?»« Tout s'est bien passé, cousin. Le blé voulait s'en aller. Alors, je lui ai dit « Attends, blé, beau blé, tu veux t'en aller toi aussi, mais je vais t'aider. » Et je l'ai aidé en coupant les épis. « Oh, gros bédigasse !» s'écria le cousin en contemplant avec stupeur les grands arbres de la forêt tout habillés de paille. « Et enfin, mais enfin, ce qui est fait est fait. Va te coucher, et moi aussi, car demain, il faut retourner à la ville. » Le lendemain, le cousin, avant de repartir à la ville, dit à Patate, « Je m'en vais, surveille bien la maison. » Patate, resté seul, s'aperçut que depuis qu'il travaillait chez son cousin, il avait fait tout le travail qu'il y avait à faire. Tout était propre, il avait réparé les serrures, bouché les trous de mur, repeint les portes et les fenêtres, le jardin était net, pas une herbe, et comme il venait de pleuvoir, il n'était pas nécessaire d'arroser. Patate ne sut alors que faire, et il s'ennuya. Dans la soute, les cochons grognèrent. « Brave cochon !» leur dit Patate. « Vous vous ennuyez ? Attendez, cochon, beau cochon, je vais vous aider !» Et il ouvrit la porte de la soute. Nos deux cochons se sauvèrent en grognant de contentement et en tire-bouchonnant de la queue. Ils se précipitèrent dans le champ de pommes de terre et le labourèrent. Le soir, quand le cousin fut rentré, il demanda à Patate « « Alors, Patate, tout s'est bien passé ?»« Tout s'est bien passé, cousin. » Les cochons s'ennuyaient dans la soute. « Alors, Je leur ai ouvert la porte et ils sont allés s'amuser dans les pommes de terre.
Ah, oh, grand foutralas ! S'écria le cousin en contemplant avec stupeur le champ de pommes de terre saccagé.
Enfin, ce qui est fait est fait. Va te coucher. Et moi aussi, car demain, il faut retourner à la ville. Mais demain, tu viendras avec moi. Comme cela, pensait le cousin, je pourrai le surveiller.
Le lendemain matin, en partant, le cousin dit à Pataté :
Tire la porte et viens. Et il partit. Pataté tira la porte, la tira tant et si bien qu'il la sortit de ses gonds et la chargea sur ses épaules. Au bout d'un kilomètre, le cousin, ne voyant pas Pataté marcher à ses côtés, se retourna pour voir ce qui le retardait de la sorte.
« Oh, mes grands espéandras, d'avoir emporté cette porte !»«
Enfin, ce qui est fait est fait. Pour ta peine, tu vas continuer à la porter jusqu'à la ville. Et ce soir, tu la ramèneras sur tes épaules. »
Arrivé à la ville, Pataté alla travailler à l'atelier avec son cousin. Tandis qu'il travaillait, le cousin dit à Pataté «
Tout à l'heure, tu vas manger avec nous à la table du patron. Attention à te bien tenir. Il ne faut pas que tu fasses de bêtises. Si je te touche du genou, tu t'arrêteras de manger. » À midi, tout se passa bien. Mais le soir, le chien qui était sous la table, tout heureux de ronger l'os qu'on lui avait jeté, donna un coup de queue à Pataté. On en était seulement à la soupe. Pataté fit la grimace. On en était seulement à la soupe, mais bien sagement, bien raisonnablement, croyant que c'était son cousin qui lui avait touché le genou, il cessa de manger sa soupe.
« Allons, Pataté, mange donc !» lui dit le patron. « Qui a bien travaillé doit bien manger. Mange, Pataté, mange !»
Le cousin vint à la rescousse. « Allons, Pataté, mange. Mange, tu as bien travaillé, vois-tu, il te faut bien manger. Mange, Pataté, mange. » Mais rien n'y fit. Pataté par-ci, Pataté par-là, Pataté ne mangea pas. Pataté était un brave garçon qui ne cherchait qu'à faire le bien. Son cousin lui avait dit de ne plus manger s'il lui touchait le genou à table. Rien au monde n'aurait pu obliger Pataté à manger dès lors qu'il croyait avoir senti le genou du cousin. Ah, ce vilain chien !
Mange, Pataté, mange donc ! Allons, Pataté, mange !
Pataté par-ci, Pataté par-là, Pataté ne mangea pas. La veillée fut longue pour Pataté. Le cousin avait décidé de coucher à la ville pour être plus tôt près de son travail le lendemain. La veillée fut longue et Pataté fit bien des fois la grimace, après quoi il alla se coucher. Quand Pataté fut seul dans la chambre avec son cousin, il n'en pouvait plus et se mit à gémir en serrant le creux de son estomac. « J'ai grand faim, cousin !»«
J'ai grand faim ? Tu as grand faim, Pataté ? Mais pourquoi n'as-tu pas mangé alors ?
Ne m'as-tu pas touché le genou, cousin ? Ne m'as-tu pas touché le genou ?
Mais pas du tout, Pataté ! Ce n'est peut-être que le chien !
Aïe, j'ai grand faim, cousin ! Aïe, j'ai grand faim ! Grand faim !
Grande tarnagasse ! Lève-toi ! Descends à la cuisine et mange !
Oh oui, certainement, cousin ! Oh oui !
Certainement, cousin.
Thank you.
Pataté n'attendit pas une seconde invitation et se hâta d'aller à la cuisine. Il aperçut un joli pot rouge en grès plein de graisse. Tant il avait faim qu'il y plongea ses deux grosses mains. Puis de sa langue, il les lécha. Et tant il les lécha qu'il se trouva gavé comme une noix de bouillie. Quand il eut fini, Pataté voulut essuyer ses mains. Mais il faisait noir comme dans un four dans la cuisine. Il s'approcha à tâtons de l'armoire. C'était l'armoire à lit, l'une de ces armoires où deux lits se tiennent en étage et où il fait bon dormir au chaud quand il gèle partout. Pataté, lui, crut que c'était l'armoire à linge. Il vit quelque chose de blanc au milieu de la nuit et il crut que c'était un sugue-main. Il s'y frotta énergiquement les mains toutes grasses. C'était les joues de la servante qui se réveilla en sursaut, croyant avoir rêvé. Elle pensa qu'elle avait trop mangé de soupe et la pauvre fille courut se laver à la fontaine devant la porte. Pataté, le pauvre Pataté, effrayé de voir le sugue-main bouger, s'enfuit auprès de son cousin et lui demanda comment il pourrait faire pour laver ses mains. Le cousin lui montra la cruche d'eau dans un coin. Pataté y enfonça ses deux grosses mains grasses et les frotta énergiquement tout en se servant d'un morceau de savon. Quand il pensa que ses mains étaient propres, Pataté voulut les sortir. Mais il ne voulait pas laisser au fond de l'eau le gros morceau de savon qu'il tenait à deux mains. Aussi ne put-il pas sortir ses mains de la cruche qui, avec le savon, ne pouvait pas passer par l'étroite embouchure. « Comment faire ?» gémissait Pataté. « Mais comment faire ? Je ne peux plus sortir mes mains. L'eau les a gonflées, elles ne peuvent plus passer. Comment faire, cousin ? Mais comment faire ?» Le cousin, qui commençait à s'endormir tout seul dans le lit, se mit à grogner et pour se débarrasser de Pataté, il grommela. « Si tu ne veux pas rester comme ça, casse la cruche. »« C'est vrai ?» dit Pataté. « Je n'y pensais pas. » Et Pataté, sa cruche au bout de bras, descendit dans la cour et cassa la cruche sur le dos de la servante qui se lavait les joues. Dans la nuit, Pataté l'avait prise pour le grand banc de pierre. La pauvre fille s'écroula et sanglota. « Je ne mangerai plus tant de soupe, patron. Je ne mangerai plus tant de soupe, je vous le promets. » Et Pataté, lui, remonta se coucher. Le lendemain se passa mieux. Le soir, le cousin décida de rentrer. Mais ils partirent trop tard et se perdirent en traversant le bois. Or, ce bois était le bois des brigands. Par contre, par crainte de tomber au milieu de leur bande, le cousin décida qu'il grimperait sur un arbre, que tant bien que mal, il dormirait sur une grosse branche en attendant le jour. C'est ce qu'ils firent. Et vinrent les brigands qui s'arrêtèrent sous l'arbre où dormaient Pataté et son cousin. Ils venaient juste de détrousser deux riches cavaliers égarés au bord du bois. Les grosses voix des brigands éveillèrent cousin et Pataté. Tous deux se mirent à trembler plus que les feuilles de l'arbre. Pataté se sentait mal à l'aise, son foie et son estomac lui faisaient mal. « Cousin, j'ai envie de jeter de l'eau, » dit Pataté à l'oreille de son compagnon. « Malheureux, » répondit l'autre, « tu vas nous faire tuer, attends qu'il soit parti. » Mais Pataté se sentait de plus en plus mal à l'aise. Son foie et son estomac lui faisaient de plus en plus mal. « Cousin, je peux plus !» Alors Pataté jeta de l'eau sur les brigands. « Malédiction et damnation !» s'écrièrent les brigands. « Qu'est-ce qui nous vient du ciel ?» Pataté crut mourir d'épouvante en entendant ces jurons. Du coup, il laissa tomber la porte de la cuisine qu'il rapportait à la maison. Les brigands la reçurent sur le crâne et crurent que c'était un mauvais coup du diable, leur patron. Sans demander leur reste, ils décampèrent en hurlant comme 36 démons, laissant là tout leur argent. Pataté et son cousin descendirent de l'arbre et n'eurent qu'à se baisser pour ramasser pièces d'argent et pièces d'or. « Pour une fois, dit le cousin, tu as fait quelque chose d'intelligent. Tiens, partageons cette fortune. » Quand ils eurent tout ramassé, Pataté donna à son cousin pièces d'or et pièces d'argent. Une à une, le cousin les mit dans ses poches. À chaque fois qu'il empochait, il tapait dans la main de Pataté et disait « Tiens, voilà pour toi, garde-le bien. » Quand le partage fut terminé, Pataté s'aperçut que ses mains étaient vides, mais que ses poches ne s'étaient pas remplies. Il s'aperçut alors qu'il ne lui revenait rien du partage et que son cousin partait en gardant tout l'argent pour lui. Pataté, tout attristé et le cœur bien gros, ne voulut pas suivre son cousin, car il était fort peiné de cette injustice. Resté seul, Pataté se mit à marcher en demandant pourquoi son cousin avait fait ainsi le partage. C'était bien dommage, car Pataté aurait pu alors retourner chez sa mère et lui apporter beaucoup d'argent comme il lui en avait fait la promesse. Enfin, pensa-t-il, il faut dire comme cousin, ce qui est fait, est fait. À force de marcher, Pataté arriva en vue d'une maison solitaire au coin d'une clairière. Il s'approcha et par la fente de la fenêtre, il entendit ce que l'on y disait. C'était le repaire des brigands. Ils étaient 12. Ils devaient toujours être 12. Or, dans la dernière affaire, l'un des 12 était resté sur le carreau. On avait donc recruté un nouveau 12e. Et les 11 brigands étaient en train d'apprendre toute la doctrine aux néophytes. Pour entrer ici, que faut-il dire ? Demandait le chef pour voir si le nouveau avait bien tout compris et tout retenu. Il me suffira de dire portillon, portillonnet, tourneron, tourne le nez, et la grosse porte s'ouvrira. C'est qu'en effet, la maison des brigands était creusée dans le roc. À la seule fenêtre qui donnait du jour, il y avait triple rangée de gros barreaux de fer. Et la porte était une lourde masse de fer qui glissait en pénétrant dans le rocher et s'encastrait dans les fentes creusées à même le roc. Jamais, à moins de connaître le mot magique, aucun homme n'aurait pu faire bouger cette porte. Il le fallait bien, car les brigands avaient accumulé dans cette maison des quantités de trésors de toutes sortes. Quand les brigands s'en allèrent, Pataté en compta 12 qui sortaient de la maison. Puis il s'approcha de la lourde porte et il dit « Portillon, portillonnet, tourneron, tourne le nez ». Et la porte glissa doucement et Pataté entra. Si vous l'aviez vu alors, le roi n'était pas son frère. Tant il y avait d'or et d'argent en masse, Pataté s'en chargea comme une mule. Après quoi, il s'en retourna chez son cousin, tout joyeux, car lui aussi pouvait rentrer chargé d'or et d'argent. Le cousin, quand il vit Pataté, n'en pouvait croire ses yeux. Comment donc avait pu faire ce brave Pataté? Où avait-il trouvé tout ce chargement? Comment vas-tu le prendre? Tu n'as qu'à aller à la maison des brigands. Et devant la porte, tu dis « Portillon, portillonnet, tourneron, tourne ton nez ». La porte s'ouvre et tu n'as plus qu'à entrer. Le cousin se fit expliquer la chose plusieurs fois tant il trouvait cela merveilleux. « Allons-y sans plus tarder, dit-il. Allons, viens, Pataté. » Et Pataté montra le chemin à son cousin. Quand ils arrivèrent devant la maison des brigands, il y avait de la lumière et de grands bruits de voix. Pataté comprit que les brigands s'étaient aperçus qu'on leur avait enlevé une partie de leur butin Sans doute était-il en colère. Et il ne ferait pas bon être découvert ici en ce moment. Et puis, Pataté avait assez d'argent comme ça. Il dit à son cousin, « Il faut attendre qu'il soit sorti, cousin. Moi, je suis fatigué. Je retourne dormir à la maison. Quand ils seront partis, tu n'auras qu'à dire « Portillon, portillonné, tourneron, tourne ton nez. » Et tu entreras seulement. Souviens-toi qu'ils sont 12 brigands. » Et Pataté s'en revint se coucher. Resté seul, le cousin se cacha dans un fourré voisin et attendit que les brigands s'en fussent allés. Quand ils sortirent, il les compta. 1, 2, 3, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le 12e ne vint pas.
« Bah !» se dit le cousin, « ce pauvre Pataté. S'il était là, il attendrait que le 12e sorte, jusqu'à l'année prochaine peut-être. Si le 12e ne sort pas, c'est qu'il n'est pas là. Pas si bête de rester là planté comme une piboule à m'enrhumer dans la mousse humide. Allons-y. » Et d'ailleurs, Pataté est si bédigasse qu'il a dû se tromper. Il n'y avait jamais plus de 11 brigands peut-être. Et sans plus attendre, le cousin s'avança et d'une voix forte s'écria « Portillon, portillonné, tourneron et tourne ton nez !» Et la lourde porte glissa dans le rocher. Il entra, mais le 12e brigand l'attendait, un grand sabre levé. « Ah, c'est donc toi, bandit, qui nous a volés !» « Je te promets, saint patron, que tu n'auras plus jamais envie de recommencer. » Et il lui trancha la tête d'un grand coup de sabre. Pataté attendit en vain le retour de son cousin. Alors il s'ennuya. Pour s'amuser, il appela la Pie, à qui les ailes avaient repoussé. « Pie, qui est ma raison, prends cet or et cet argent. » Et va le porter à tous ceux du pays qui n'en ont jamais vu. » Et la Pie prenait tantôt une pièce d'or, tantôt une noix d'or, tantôt un sac d'argent. Tous les pauvres gens annurent pour acheter ce qui leur manquait. Et quand la Pie revenait, Pataté riait, il ne s'ennuyait plus. « Pie, qui est ma raison ? Prends cet or et cet argent et va le porter à tous ceux du pays qui n'en ont jamais vu. » Et la Pie porta tout ce que Pataté avait pris dans la maison des brigands et tout ce que son cousin avait partagé pour lui seul dans la forêt. Avec la dernière pièce d'or, l'enterre-mort du village fit un joli tombeau pour le cousin de Pataté. Pataté ne s'ennuyait plus. « Pie, qui est ma raison, prends cet or et cet argent et va le porter à tous ceux du pays qui n'en ont jamais vu. » Quand la Pie eut tout emporté, elle revint auprès de Pataté et se percha sur son épaule. Alors Pataté s'ennuya. « Pataté, Pataté, il ne faut plus t'ennuyer. Pataté, Pataté, tu vas t'en aller. Prends le coq et va-t'en. » Sur ces paroles, la Pie s'envola et disparut dans le bois. Alors, Pataté prit le coq sous le bras et il partit sur la grande route. Il marcha longtemps jusqu'à la nuit. Il marcha la nuit, longtemps, longtemps. Soudain, il arriva dans un village nommé Le Pas. Sur la plage du village, une foule de gens s'affairait à la lumière des torches. Ils attelaient d'immenses bœufs hauts comme des montagnes à un immense char grand comme la mer. « Oh, braves gens !» leur dit-il. « Où allez-vous avec à cette heure avec un tel attelage ?»« Où nous allons, étrangers ? Mais nous allons chercher le jour. Ne le sais-tu pas ?» Alors, Pataté se mit à rire si bien que les bœufs, hauts comme des montagnes, se mirent à beugler comme tous les tonnerres et que le char, grand comme la mer, se mit à geindre comme tous les vents. « Il n'y a pas de quoi rire, étranger, parce que nous allons chercher le jour. » Braves gens, dit Pataté l'innocent, point n'est besoin d'aller si loin. La petite bête que voici vous amènera le jour tous les matins. Sans bœuf, haut comme la montagne, ni char, grand comme la mer. Pas possible, s'exclamèrent les gens. Bonnes gens, vous allez voir. Alors, Pataté posa son petit coq sur le plus beau tas de paille du pays et il cligna de l'œil. Le coq secoua ses plumes, battit des ailes, ferma l'œil et l'ouvrit, puis il se mit à chanter. Et l'aube pointa. Toutes les bonnes gens applaudirent et voulurent acheter le coq de Pataté. Ils lui emplirent le grand char attelé des grands bœufs de toutes les richesses du pays et dirent adieu à Pataté. Et Pataté revint chez sa mère avec son char tout plein. « Voilà, mère, je t'apporte beaucoup d'argent. » Sa mère reconnut Pataté l'innocent, l'embrassa sur son cœur et tous deux vécurent longtemps et heureux. Pataté n'a pas changé. Il est toujours aussi limité intellectuellement, mais les circonstances qui se sont poursuivies sont telles que c'est quand même les mêmes plaines qu'il retournera chez sa mère. La prochaine fois, nous commencerons un nouveau conte, le dernier du livre « Contes et légendes du Languedoc » aux éditions Fernand Nathan. À bientôt, chers auditeurs.
Alliance Plus.